les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Du lundi au jeudi, à 7h55,
ouvrez les oreilles, peuple de France,
les évadés du fou du roi débarquent dans le 7-10.
C'est quoi ce portrait de Guy Mollet qui est au-dessus de vous, Nicolas?
Didier Porte.
Le matin, à 8h05, retrouvez la chronique d'un évadé du fou du roi dans le 7-10 de Nicolas Demorand.
Stéphane Guillon.
Attendez.
Aujourd'hui, c'est Vincent Roca. Bonjour Vincent.
La France risque d'être habillée pour les siens.
Les évadés du fou du roi.
Rassurez-vous, c'est de la radio.
Du lundi au jeudi, à 7h55.
Bonjour, c'est Eva Bettan. C'est le moment. Vous avez envie d'être juré du Livre Inter 2008 présidé par Alberto Manguel?
C'est quelque chose d'essentiel. Lire comme respirer est une fonction qui nous définit.
Dites-nous par lettre qui vous êtes, quel livre vous aimez. Vous avez jusqu'au 20 février pour proposer votre candidature. Livre Inter, France Inter, 75 220 Paris CEDEX 16.
France Inter,
la différence.
14h04 oui. Sur France Inter. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Claire Sarmajan.
C'est parti pour la tête au carré.
On y va, merci beaucoup, à tout à l'heure.
Alors,
la tête au carré.
À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
La tête au carré, c'est à la fois la tête dans le carré et puis le carré dans la tête.
La pure connaissance scientifique.
C'est la tête au carré.
On va faire une minute de méthodologie, mais dans un magazine scientifique, ça ne peut pas être autorisé.
Ça va.
La tête au carré.
Tenez-vous bien. 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de science avec toute l'équipe de La Tête au Carré. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission, Chantal de Montagnier a préparé le dossier avec Lucie Sarfati et je reçois aujourd'hui le professeur Luc Montagnier. Bonjour.
Bonjour.
Votre nom reste associé au virus du sida que vous avez co-découvert avec votre équipe de l'Institut Pasteur en 1983. Vous êtes aujourd'hui président de la Fondation Mondiale Recherche et Prévention Sida qui est associée à l'UNESCO. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l'Institut Pasteur, et vous êtes notre invité à l'occasion de la parution de votre livre Les combats de la vie, mieux guérir et prévenir, qui va sortir mercredi aux éditions Jean-Claude Lattès. Luc Montagnier, vous livrez donc au fil des pages vos réflexions sur la recherche, sur les facteurs de risque face aux maladies, vous insistez sur nos défenses immunitaires, sur le stress oxydant, vous parlez prévention beaucoup, vous revenez sur l'histoire du sida, vous évoquez la médecine du futur, vous critiquez également le business pharmaceutique et vous parlez du métier de chercheur. Ce sont d'abord finalement les combats de votre vie, Luc Montagnier, dont vous parlez dans cet ouvrage.
Enfin, effectivement, c'est pas mal d'années dans la recherche sur le cancer, ensuite sur le sida, puis on revient bien sûr aussi aux maladies chroniques qui sont quand même le gros problème de santé publique de notre temps avec les épidémies. Et je me bats, effectivement, je suis toujours actif, on peut dire. Bien qu'étant mis à la retraite en France, je continue mes activités aussi bien aux États-Unis et parti en France aussi, puisque effectivement, je dirige une fondation proche de l'UNESCO.
Essayez de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. C'est un peu le thème central de votre réflexion?
Ben, je crois qu'on assiste à une prolongation de la durée de vie moyenne, de ce qu'on appelle l'espérance de vie, qui se produit dans tous les pays développés, même un degré moins dans les pays en voie de développement. Et la France est bien placée de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est comment exploiter cette longueur de vie supplémentaire qui nous a été donnée grâce à la progrès de la médecine, la meilleure alimentation, le moins de stress peut-être, enfin, encore que le stress recommence. Et la question est de savoir comment peut-on vivre en bonne santé ces années supplémentaires qu'on nous donne. Et malheureusement, il y a énormément de maladies chroniques qui sont en augmentation, les cancers, les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, les maladies de Parkinson et d'autres, les maladies articulaires, les maladies cardiaques. Et donc la question est de savoir si on va vivre grabataire ou en mauvais état ces dernières années.
Alors vous pariez quand même que nous pourrions encore gagner 20 ans de vie active en plus, si on s'y prend bien évidemment. Est-ce qu'il y a des risques que nous puissions un jour justement perdre ce gain de vie supplémentaire là qu'on grignote depuis quelques décennies?
Effectivement, je crois qu'on peut atteindre un plateau et redescendre, parce qu'il y a quand même des facteurs de risque de notre vie moderne qui font qu'on risque davantage de mourir maintenant.
Le fait aussi d'être de plus en plus nombreux sur la planète, ça peut être un facteur de perte de notre espérance de vie.
Il y a des concentrations énormes. Oui, bien sûr, la Terre ne peut pas supporter un nombre indéfini d'êtres humains. Mais il y a aussi le fait que cette répartition des humains est très inégale. C'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer dans les villes deviennent des mégalopoles de 10, 15, 20 millions, avec des zones extérieures en très mauvais état, avec très mauvaise hygiène, la concentration dans les transports fait que c'est pas bénéfique pour un virus, par exemple, ou une bactérie de se diffuser dans toutes ces populations.
Et quelles sont les premières conditions, alors, selon vous, pour que chaque être humain puisse se développer dans les meilleures conditions possibles?
Bien, il faudrait qu'on soit d'abord à l'abri du risque de ces maladies chroniques. Et moi, je travaille, à partir de mon expérience sur le sida, sur l'idée que beaucoup de ces maladies dites chroniques ont une origine infectieuse, au moins en partie. Par exemple, je prends la maladie d'Alzheimer, nous avons des arguments, on pensait qu'il y a des infections bactériennes, probablement venant d'origine intestinale, qui contribuent à cette maladie. Il y a des cancers également qui peuvent être causés par des bactéries. On connaît déjà le cancer de l'estomac, il peut y en avoir d'autres. Il y a des virus qui ont aussi un rôle très important dans beaucoup de cancers. Donc, attaquer, si vous voulez, par cet angle, ces maladies chroniques, c'est peut-être les prévenir. Et ça, c'est très important, bien sûr.
Professeur Dumont-Tanier, donc beaucoup de sujets à aborder avec vous au cours de cette émission. Des sujets d'ailleurs qui font toujours l'actualité, comme le sida, les hormones de croissance. Et puis vous nous livrerez votre réflexion sur la biologie humaine avec les courriels des auditeurs qui peuvent vous poser toutes leurs questions en nous retrouvant sur franceinter.com. À tout de suite.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Là, je mets un 19, Jamy.
Est-ce que vous notez en plus à chaque fois?
Je donne des notes, bien sûr.
Est-ce que vous avez le temps d'apprendre des choses, au moins?
Non, franchement, non, on regarde autre chose.
Regardez quoi?
Bah, l'image.
Vous n'écoutez pas, là?
Enfin, on écoute quand même. On entend le message, quand même.
J'ai remarqué que sur les plateaux de C'est pas sorcier, il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose à dire aux journalistes. Tout le monde sait toujours un truc ou rajoute un truc. Non. On va demander à JP tout à l'heure.
Vous êtes vraiment une enfant de C'est pas sorcier, non?
En fait, je suis une enfant tardive de C'est pas sorcier, c'est-à-dire que je regardais avant de travailler pour eux. Et maintenant, je suis un produit pur C'est pas sorcier, c'est-à-dire que j'enquiquine tout le monde avec ce que j'ai appris et les mille questions que je me pose sur comment ça marche, comme les gamins, comment ça marche, etc. Mais voilà, à 35 ans, on est complètement formaté.
Allez, une répète.
Bonjour Laurence Garcia.
Bonjour Mathieu.
C'est pas sorcier, c'est le magazine de la découverte et de la science sur France 3. Ça fait 14 ans maintenant que l'émission existe. Et cette semaine, donc, vous êtes passé de l'autre côté du décor pour suivre la mécanique, la fabrique de cette émission qui aurait pu s'appeler Comment ça marche,
oui,
finalement.
Oui, pourquoi comment. D'ailleurs, c'est une émission qui a plutôt la cote, hein, auprès des personnalités scientifiques qui ont pourtant, on peut le dire, parfois la dent un petit peu dure face à tout ce qui est vulgarisation de leur cher savoir. Alors, je ne sais pas, professeur Montagny, vous êtes un téléspectateur de C'est pas sorcier.
Non, pas très assidu, parce que j'ai pas beaucoup de temps au moment où cette émission passe, mais
vous connaissez toutes les réponses.
J'en ai vu une ou deux. Non, je ne connais pas toutes ce qui était la question qui a été posée.
Alors,
les réponses.
L'humour, la rigueur, la simplicité, mais pas le simpliste. Le simplisme, voilà un peu la recette de cette émission, avec bien sûr Fred et Jamy qui répondent à nos questions, questions des enfants, mais aussi celles des parents. Le concept est plutôt bien huilé. Vous allez le voir, vous allez l'entendre dans les coulisses. Bah, c'est assez étonnant de voir que tout est astuce et système D. C'est tout simplement une ruche d'artisans. Alors, il y a des techniciens, des maquettistes, des journalistes scientifiques, des réalisateurs, des animateurs. Chacun apporte son savoir-faire dans la bonne humeur et la rigueur, toujours, c'est le maître mot. Un mot est un mot, justement. Et si une maquette est de travers, bah, tout simplement, on recommence et on reprend la prise. Alors ce jour-là, vous l'entendrez toute cette semaine, Fred était en tournage et Jamy enregistrait un plateau sur le réchauffement climatique en montagne. Voilà, c'est pas sorcier, comment ça marche? C'est donc dans la tête au carré. C'est un peu vos confrères. Hein,
voilà, premier épisode tout à l'heure, voilà. 14h50. Merci Laurence.
Merci.
Eh hey Mathieu,
revue de presse.
C'est pas l'heure de la revue de presse là?
Dans la tête au carré.
Ce week-end, Le Parisien aujourd'hui en France consacrait une double page au danger du portable. L'expérience qui relance le doute, révèle Alexandra Ashkenazi. C'est une étude scientifique menée par des chercheurs de Clermont-Ferrand sur des plants de tomates. Après 10 minutes d'exposition aux ondes électromagnétiques d'un téléphone portable, les tomates sécrètent une molécule du stress qui n'apparaît que lorsque les végétaux sont abîmés. Pour l'homme, le soupçon concerne les ondes magnétiques qui pourraient provoquer des gliomes, des cancers du cerveau et des neurinomes, des cancers du nerf auditif, encore des cancers salivaires du côté de l'oreille sollicité par l'utilisateur de portable. Le quotidien rappelle que le monde entier est suspendu à la publication d'ici à quelques semaines d'Interphone, la seule étude internationale de grande ampleur, susceptible de donner enfin des éléments de réponse concrets. En France, les chercheurs qui ont rendu leurs conclusions en septembre ont constaté que les personnes atteintes de gliome se servaient davantage de leur portable que celles en bonne santé. Une réaction, Luc Montagnier, sur les inquiétudes liées au téléphone mobile. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, je crois que ces inquiétudes sont légitimes. Bien sûr, on n'a pas prouvé que l'utilisation des portables cause des maladies, des cancers notamment. Mais il y a quand même un risque du fait que ce sont des radiations de faible énergie, mais qui sont utilisées très longtemps. On voit des jeunes qui sont des heures à leur portable, et là on peut avoir des effets donc liés à la durée d'exposition, même si l'énergie est très faible.
Donc on en saura plus avec la publication de l'étude Interphone dans quelques semaines. Dans la Croix, Denis Sergent revient sur le lancement jeudi soir de la navette Atlantis qui transporte dans ses soutes Columbus. C'est ce module cylindrique qui mesure 6 mètres de long pour une masse totale de 12 tonnes et un volume interne de 75 mètres carrés, pressurisé, doté de systèmes de contrôle de l'atmosphère, de la température et des risques d'incendie. Il est recouvert d'une protection anti-météorique et météorite et c'est le premier laboratoire européen permettant d'effectuer des recherches à long terme dans un environnement de micro-apesanteur. Il va permettre d'effectuer des expériences de sciences de la vie, de matériaux, de physique des fluides et d'astrophysique. Plus tard, Columbus effectuera des mesures sur le corps humain en état de gravité en utilisant comme cobaye les 7 astronautes présents à bord de l'ISS. Comme l'explique le journaliste, ces expériences permettront de comprendre l'adaptation neurologique et immunologique de l'homme à la vie dans l'espace, ce qui pourrait servir à de futures missions habitées vers Mars à l'horizon 2035-2040. La Food and Drug Administration, l'autorité américaine de surveillance du médicament, avertit vendredi que l'usage de la toxine botulique, commercialisée notamment sous le nom de Botox, pouvait avoir des effets dangereux, voire mortels. La toxine botulique est en effet sécrétée par la bactérie à l'origine du botulisme, une maladie mortelle que l'on contracte en mangeant des conserves avariées. Dans le Figaro, Isabelle Brisson précise que l'agence américaine du médicament ne va pas toutefois jusqu'à interdire son utilisation comme produit anti-rides. Le docteur Russell Katz a en effet précisé qu'aucune des victimes recensées n'avait utilisé le Botox à des fins esthétiques. Les cas d'intoxication se sont produits chez des patients à qui la toxine botulique a été injectée à des fins thérapeutiques, donc à des doses beaucoup plus élevées qu'en usage cosmétique. Là aussi, Luc Montagnier, vous connaissez ces résultats ?
Bien, cette toxine, qui dit toxine, évidemment, dit que c'est quelque chose de très actif et qui peut entraîner donc des paralysies musculaires très importantes. Donc,
et là aussi, c'est la dose, petite, apparemment.
C'est la dose, joue, hein. Bien sûr, et bien sûr, sous la peau d'un front ou pris pour une voie thérapeutique, c'est pas pareil, bien sûr.
Et puis on termine avec du cochon, puisque vous le savez, tout est bon dans le cochon. C'est ce que confirme Yves Pouchard dans Le Parisien aujourd'hui en France, en rapportant cette première au monde. En Ille-et-Vilaine, une entreprise artisanale d'andouille produit de l'électricité à partir de graisse de porc. À l'origine, ce sont trois ingénieurs de l'école des mines de Nantes qui ont convaincu l'entrepreneur de tester leur idée de valorisation énergétique des graisses animales. Tout au long de la fabrication des andouilles, le gras excédentaire est récupéré. Après filtrage, de l'éthanol est ajouté à la graisse pour assurer une stabilité liquide. Selon les ingénieurs, ce carburant pollue moins que le gazole et l'utilisation d'une tonne de graisse d'andouille évite le rejet dans l'atmosphère quand même d'une tonne de CO2. qui est pas cher, Arnaud sur France Inter.
Comment se fait l'évolution ? C'est une complexification considérable de la circuiterie neuronale.
Ce n'est pas très clair. Je vais mettre une fin à toute cette confusion.
Sur France Inter.
Je reçois le professeur Luc Montagnier à l'occasion de la publication, donc ce sera mercredi, hein, de votre nouveau livre « Les combats de la vie, mieux guérir et prévenir » chez Jean-Claude Lattès. Et vous répondez au courriel des auditeurs qui arrive sur franceinter.com. Professeur Montagnier, après toutes ces années de recherche sur le sida en particulier, qu'est-ce que vous retenez comme étant finalement la réflexion majeure de votre vie de chercheur ?
Ah, vous posez une grande question. Alors je crois que, effectivement, faire des recherches en biologie médicale, c'est à la fois répondre à des questions philosophiques, un peu que tout être humain peut se poser, d'où vient-on, qui est-on, où va-t-on. Donc de donner des réponses peut-être plus précises que ce qu'on apprend des religions. Et deuxièmement, essayer effectivement de comprendre ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, et lutter justement contre des maladies qui font malheureusement mourir prématurément beaucoup de personnes. Donc c'est très enrichissant d'une part, mais c'est aussi très dur parce que bien sûr tout ne marche pas toujours comme on veut. C'est pas, on fait une observation, une expérience, c'est peut-être une fois sur 10 qu'on a un résultat qu'on attend, qui est positif. Donc il y a beaucoup d'essais en vain. Il faut bien se rendre compte que justement pour les décideurs politiques, il faut pas donner de l'argent seulement pour les choses qui vont marcher à 90% de chance ou même 100%. Il faut donner de l'argent pour des recherches à risque. Et c'est ce que j'ai toujours essayé dans ma vie, c'est plutôt de faire des recherches qu'on peut considérer comme marginales, mais qui finalement, des fois, aboutissent à des grands résultats.
Et quelles sont les études ou les recherches qui se font aujourd'hui sur lesquelles finalement vous avez le plus d'espoir ou qui vous intéressent le plus pour l'avenir ?
Eh bien, je pense qu'il y a un élément, une composante qu'on oublie, si vous voulez, en biologie, c'est la composante vibratoire. C'est-à-dire que nous sommes pas seulement des faits de molécules, de petites choses matérielles extrêmement denses, mais aussi nous sommes environnés d'ondes, et probablement ces choses qui sont dans notre corps émettent aussi des ondes. Donc on a un monde vibratoire, et ceci pour l'instant n'est pas du tout pris en compte par la biologie et la médecine.
Donc il y a beaucoup de travaux, ça vous intéresse.
Bien sûr.
Alors la médecine nous protège évidemment aujourd'hui, on le voit avec l'espérance de vie, on en parlait tout à l'heure, de plus en plus importante, en particulier dans les pays occidentaux. Alors cependant, ça entraîne deux effets négatifs. D'abord les germes qui sont de plus en plus résistants au traitement, et puis d'autre part notre patrimoine de défense qui serait en train de s'amoindrir. Qu'est-ce qui explique ces paradoxes ?
Effectivement, on a des défenses immunitaires essentiellement qui sont très bonnes. On a été sélectionnés, si vous voulez, pour survivre à beaucoup d'épidémies. Enfin, nous sommes les descendants des ancêtres qui ont survécu à la peste noire, par exemple, du Moyen-Âge en Europe, et beaucoup de maladies virales, la rougeole, la tuberculose, des bactériennes comme la tuberculose, etc. Donc, nous sommes d'un côté bien armés, mais on tend à perdre un peu ses défenses par le fait même que la médecine garde en vie des personnes qui, normalement, seraient mortes prématurément avant leur reproduction. Donc la sélection naturelle n'agit plus, on agit dans l'autre sens. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de prendre en compte ce phénomène que probablement davantage de maladies génétiques, d'origine génétique, peuvent exister. Il faudra donc les traiter.
Notre environnement, nos comportements également jouent dans cette exposition aux maladies ?
Bien sûr. Alors, il y a aussi notre environnement, le fait qu'il y a un phénomène biochimique majeur, il faut quand même l'appeler, le stress oxydatif ou oxydant, c'est-à-dire le fait qu'en dehors des stress psychologiques, hormonaux, etc., il existe aussi dans nos cellules un déséquilibre entre des facteurs oxydants, comme des molécules dérivées d'oxygène très, très réactives, et nos défenses antioxydantes. Et si nos défenses antioxydantes sont diminuées, à ce moment-là, notre système immunitaire lui-même est diminué, et donc on est plus ouvert, si vous voulez, à des infections, et on résiste moins à ces infections.
Ça, c'est votre cheval de bataille. On va y revenir.
C'est mon cheval de bataille, parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu négligé à l'heure actuelle.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes capacités à nous défendre du point de vue biologique ? Il y a une grande inégalité quand même dans notre façon de pouvoir justement appréhender et recevoir les maladies, tous ces agents infectieux là qui nous entourent.
Alors, c'est effectivement une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas égaux du point de vue génétique. On a donc un certain nombre de gènes qui sont un petit peu variables, et notamment nos enzymes de lutte contre le stress oxydant peuvent être bons ou peuvent être mauvais. Donc nous ne sommes pas du tout égaux dans le stress oxydant. Ceci peut être maintenant analysé par des techniques moléculaires, mais enfin, c'est pas encore la médecine, c'est la médecine de demain, c'est pas la médecine d'aujourd'hui.
Et ce système immunitaire, finalement, il est sensible à notre état général, qu'il soit physiologique ou psychologique.
Ou psychologique.
Et vous dites bien à quel point c'est important de prendre en compte l'ensemble chez le patient.
Absolument. Et c'est bien connu. D'ailleurs, mon confrère David Serban-Charibert insiste beaucoup là-dessus. On peut lutter contre un cancer aussi, grâce à un bon équilibre psychologique.
Comment est-ce que vous expliquez cette importance de la prévention d'abord? Est-ce que, selon vous, on ne fait pas assez de prévention pour préparer l'organisme à l'assaut des virus et des microbes? Ça, c'est encore un des...
Oui, je pars du fait que ces maladies chroniques, comme les cancers par exemple, ou les maladies du cerveau, une fois que les lésions sont installées, c'est très difficile de revenir en arrière. Notamment, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, il y a des plaques qui se forment, et une fois qu'elles sont là, on ne peut pas les enlever. Donc, et pour certains cancers, on peut évidemment les traiter, mais est-ce qu'on vraiment on peut guérir d'un cancer au niveau de la cellule? Ce n'est pas sûr. On va toujours garder probablement quelques cellules.
Pourtant, il y a une régénération aussi qu'on découvre beaucoup autour des cellules. Hein.
Ah bah, la régénération peut être agir dans deux sens, parce que vous pouvez avoir des cellules souches qui peuvent justement devenir cancéreuses. Si le facteur cancérigène reste, eh bien des cellules normales vont à nouveau devenir cancéreuses. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver les facteurs de risque, les facteurs qui sont les causes. On travaille surtout sur le comment du cancer. On connaît beaucoup sur le comment des gènes qui sont impliqués, etc. Mais on connaît beaucoup moins sur les causes. Et ces causes sont multiples et peuvent s'additionner, donc justement à travers le stress oxydant qui se forme au niveau des cellules. Donc, moi, je préconise des tests réguliers du stress oxydant de façon à prévenir, enfin diminuer le facteur de risque, aussi bien pour des cancers que des polyarthrites ou des maladies du cerveau.
Mais comment on fait ça? Il y a des centres pour ça, pour faire son test de stress
Alors,
oxydatif?
On commence à en faire, mais c'est très très difficile, et c'est plus difficile même en France que dans d'autres pays.
Ouais.
Et c'est dommage.
Sur la base de prise de sang, j'imagine?
Une petite prise de sang permet effectivement de faire beaucoup de tests. Il faut faire 5 ou 6 tests essentiels, peut-être même plus. On a créé des compagnies pour ça, mais c'est très peu diffusé à l'heure actuelle. Et mon souhait, c'est qu'un jour, ça soit pris en charge par les gouvernements, par la sécurité sociale, car on va diminuer le déficit de la sécurité sociale à long terme en prévenant toutes ces maladies qui font mourir les gens dans leur vieillesse.
Comment est-ce qu'on explique la survenue de nouvelles épidémies aujourd'hui dans le monde? Pourquoi des agents viraux ou bactériens se réveillent? Qu'est-ce qui favorise leur développement? Je crois qu'il y a l'OMS qui a suivi l'émergence d'une trentaine de nouveaux agents pathogènes sur les 25 dernières années.
Tout à fait. Ça, c'est l'autre grand risque majeur. C'est celui d'une nouvelle épidémie plus ou moins imprévisible. Et effectivement, on ne peut pas la prévoir, mais on peut quand même voir un certain nombre de facteurs qui peuvent favoriser le passage d'abord de virus d'animaux à l'homme. C'est ce qu'on appelle des zoonoses. On a pas mal d'exemples. Même la grippe aviaire dont on parle à l'heure actuelle provient d'oiseaux et peut passer chez l'homme. Mais il y a aussi les concentrations humaines. Il y a le fait que notre système immunitaire est peut-être aussi pas aussi performant du fait d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise nutrition. Donc tous ces facteurs peuvent s'ajouter. Et bien sûr, il y a les voyages, il y a les échanges, le fait que nous sommes dans un monde globalisé. Et donc, on peut prendre aussi bien de la viande venant d'Asie, du Sud-Est, ou des fruits d'Amérique du Sud. Enfin, il y a, si vous voulez, un échange de, bien sûr, important pour nous, mais aussi un échange de germes. Mmh. Et les germes voyagent à la même vitesse que nous voyageons.
Et quelles sont les maladies qui risquent de réapparaître? On parle beaucoup de la tuberculose.
Tuberculose est quand même liée à des mauvaises conditions de nutrition et d'hygiène qu'on trouve surtout, malheureusement, dans les pays pauvres. Donc le risque de la tuberculose dans les pays développés est faible. Il n'est pas nul, car il y a maintenant des germes des bacilles multirésistants aux antibiotiques. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'épidémie importante à cause de ces germes multirésistants, mais c'est quand même un danger. Et notamment, il y a des prisonniers dans les prisons russes qui sont très infectés par ces germes multirésistants.
Une question de Karine qui est à Nantes. Ne pensez-vous pas que l'augmentation de l'espérance de vie reste conjoncturelle compte tenu de la dégradation de nos conditions de vie, stress, pollution, mauvaise alimentation et de travail depuis les années 80? Est-ce que ce ne sont pas les enfants du baby-boom d'après-guerre qui vont en bénéficier, mais pas leurs enfants?
Pour l'instant, la courbe d'augmentation de l'espérance de vie et continue. C'est-à-dire qu'il y a toujours une augmentation, à peu près 3 mois tous les 2 ans. On gagne en moyenne, c'est une moyenne, bien entendu. Est-ce que ça va continuer éternellement? C'est évidemment pas, parce qu'il y a des facteurs de programmation génétique qui nous imposent de mourir. Nous ne sommes pas immortels, nous ne sommes pas éternels.
Mais pour l'instant, la courbe est ascendante.
Pour l'instant, la courbe continue, mais c'est vrai qu'elle va arriver à un moment donné à un plateau et même une descente, si on ne prend pas en cause tous les facteurs dont je parlais tout à l'heure.
Au sujet de la grippe aviaire, justement, est-ce qu'il faut ou pas s'en inquiéter, malgré effectivement les cas là, qui se développent dans le monde? C'est vrai qu'on en parle quand même moins que par rapport à il y a 2 ans. Quels sont les risques réels? Et est-ce qu'une deuxième grippe espagnole serait aujourd'hui possible avec la grippe aviaire?
Elle serait possible à partir du virus. Le virus peut effectivement muter comme le virus de la grippe espagnole de 1917-1919. Et donc, c'est un risque certain. Et ce qui va se produire, c'est un peu comme les tremblements de terre. C'est pas, on dit, les tremblements de terre font certainement un tremblement de terre majeur, par exemple, va se produire en Californie, mais on ne sait pas quand. Ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Cette grippe, c'est un peu la même chose, cette épidémie de grippe que l'on craint. Ceci dit, peut-être qu'on n'aura pas la même importance que la grippe de 1917-1919, du fait qu'il y a quand même des réseaux de vigilance. L'Organisation mondiale de la santé a des laboratoires qui suivent les choses de façon très régulière. Pour l'instant, il y a des infections de passage des oiseaux à l'homme, et c'est tout à fait localisé. C'est dans l'Asie du Sud-Est, en Égypte. Mais nous ne sommes pas très loin, finalement. Ça peut aussi remonter chez nous. C'est pas
mais est-ce qu'un vaccin spécifique pourra être mis en place ou pas?
Alors, on pourra faire un vaccin, mais est-ce que tout le monde aura accès à ce vaccin au moment où il faudra le donner? C'est-à-dire que, brusquement, l'épidémie... Il ne faut pas oublier que c'est un virus qui est transmis par la respiration. C'est une maladie donc respiratoire. Et donc, la contagion peut être extrêmement grande, notamment dans les concentrations humaines autour des villes ou dans les transports en commun. Est-ce qu'on pourra répondre uniquement par le vaccin? Ça n'est pas sûr. Il y a plusieurs autres solutions. D'abord, d'avoir un bon système immunitaire, de prendre des précautions. Je crois que le ministère de la Santé en parle. De pas cracher à terre, respirer avec un masque si on est affecté, etc., etc. Se laver les mains.
Parce que là, vous souvent, dites qu'il y a des règles d'hygiène qui nous paraissent complètement désuètes aujourd'hui et qu'il faut absolument enseigner.
Quand j'étais à l'école primaire, on avait des grandes affiches sur la transmission de la tuberculose. Ne pas cracher à terre, ne pas balayer à sec, etc. Et tout ceci a été complètement oublié. Alors, il faudrait un peu effectivement revenir à ces précautions de base, si on peut dire, d'hygiène. Et qui sont multipliés parce que nous sommes encore plus nombreux qu'avant, bien sûr. Et deuxièmement, prendre des antioxydants pour renforcer nos défenses immunitaires. Et il n'est pas impossible que pour le vaccin, pour l'instant, les vaccins contre le virus de la grippe sont spécifiques de chaque souche, on peut dire, de virus qui peut varier tous les ans. Donc les vaccins actuels ne protègent pas contre le vaccin, contre le virus H5N1, virus potentiel donc de la nouvelle épidémie. Mais il n'est pas impossible qu'on puisse, par des facteurs de stimulation particuliers, utiliser un vaccin ordinaire, on peut dire, contre la grippe saisonnière, qui puisse aussi protéger. Donc je pense qu'il y a quand même une possibilité de mobilisation au niveau aussi international, qui font que peut-être le risque est moindre que celui de la Première Guerre mondiale.
Mais apparemment, pour l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de doute, hein, le H5N1 est le virus le plus à même de provoquer la prochaine pandémie. Mais comme toujours, ce sont les pays du Sud, apparemment, qui seront les plus touchés.
Ça n'est pas sûr, parce que le virus de la grippe aime bien les pays froids. Donc, c'est plutôt dans le Nord que ça peut se diffuser très vite. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment de la grippe espagnole.
Professeur Montagnier, vous restez avec nous. On parlera des antioxydants, parce que c'est vrai qu'il y a un marché très lucratif autour des antioxydants. On ne sait pas très bien à qui se fier, comment les prendre, comment ça peut fonctionner, évidemment. Donc, un point de vue scientifique sera le bienvenu. Et puis, vous répondrez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.com. On se retrouve après Ben Harper.
Les sciences sur France Inter, mais ça va pas la tête.
When your world's shaken from all the risks we have taken, dance with me, dance with me into the colors of the dust. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But we leave now. The world spins itself down to dust. I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color. When you again start hoping, your arms wide open, come on, dance with me. Oh, dance with me into the colors of the dusk. And all will be right, will be right. Dancing like water with the light. Oh, dance with me. You dance with me into the color of the dust. Oh, dance with me into the colors of the dust. Dance with me to the colors of the dust.
Dos, un, cuatro, tres.
La tête est carrée.
Tu vois un carré? Tu vois une tête?
Carré.
Zut, tout a dû sauter. Attendez, ne bougez pas, je vais arranger ça.
Professeur Luc Montagnier, vous êtes avec nous cet après-midi en direct dans La Tête au Carré à l'occasion de la sortie, donc c'est mercredi, hein, dans les librairies, Les Combats de la Vie, chez Jean-Claude Lattès. C'est mieux que guérir, prévenir, hein, c'est le sous-titre de ce livre. On va parler avec vous dans un instant de la recherche sur le sida. D'abord cette question de Pierrick qui est à Rennes. Les gynécologues préconisent vivement la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Ne s'agit-il pas d'une vaste campagne commerciale des laboratoires? Est-ce vraiment un vaccin et y a-t-il un risque à l'administrer? Question que se posent beaucoup de parents.
Alors, je vais d'abord parler des faits scientifiques. Effectivement, le cancer du col de l'utérus et même les dysplasies qui précèdent ce cancer sont associés à certaines souches, certains sous-types d'un virus qu'on appelle virus des papillomes, qui aussi est à l'origine de verrues, par exemple. Mais là, effectivement, ils préparent le terrain pour déclencher des cancers. Ces virus ont des gènes, même cancérogènes, donc ce sont des faits scientifiques. Donc il est logique, quand on a un virus, de préparer un vaccin.
Mmh. Mais est-ce qu'il faut vacciner à tout va ou pas?
Alors, c'est ça la question. Il y a des questions éthiques. Certains ont dit, si on vaccine des filles avant leur propre premier contact sexuel, on va encourager la débauche. On l'a déjà dit pour les... D'ailleurs, pour les vaccins contre le sida, il n'y en a pas pour l'instant.
Bon, ça c'est l'aspect moral des choses.
L'aspect moral, éthique des choses. Et puis il y a l'aspect, être-on sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires de ce vaccin? Alors probablement, je ne connais pas tous les détails, mais les firmes qui lancent ces vaccins ont fait des essais cliniques, des essais d'efficacité, de non-toxicité. Mais la question est de savoir si ça a été fait également pour des enfants très jeunes, car il faut prendre encore davantage de précautions pour un vaccin qu'on va donner à ces sujets jeunes, parce que il y a toute leur vie devant eux. Il ne faut pas que ces vaccins, même à un temps plus ou moins long, provoquent
des effets secondaires. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce que vous nous dites? Ça veut dire attention quand même.
Je dirais prudence.
Prudence dans l'utilisation de ce vaccin.
Absolument.
Alors, on va bien sûr parler du sida avec vous, co-découvreur du virus en 1983 avec l'équipe de l'Institut Pasteur. On va réécouter d'abord ce document, extrait du journal de France Inter en janvier 1985. C'était Patrice Bertin qui animait le journal.
Les chercheurs français de l'Institut Pasteur ont franchi un grand pas dans la lutte contre le sida, cette mystérieuse maladie qui fait des ravages, notamment aux États-Unis dans les milieux homosexuels. À l'Institut Pasteur, le professeur Montagnier et son équipe ont réussi à identifier le virus du sida. La voie est maintenant ouverte à la préparation d'un vaccin. Le professeur Montagnier au micro de Germaine Bartoli.
On a pu déchiffrer complètement l'alphabet, le langage du virus. Alors les conséquences à attendre de ce travail, c'est de mieux connaître le virus et également de penser à faire des tests qui seront moins coûteux et plus fiables que ceux qu'on envisage de distribuer cette année. Avant le vaccin, il y aura deux étapes. Il y a l'étape de détection de les infections virales par un test sanguin, qui, elle, va probablement commencer dès cette année. Et une étape également, peut-être, de traitement. Sachant comment le virus peut causer la maladie, on peut envisager mais des traitements spécifiques. Et le vaccin est une affaire à long terme.
Effectivement, puisqu'on est en 1985, il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida.
J'avais effectivement une attitude de prudence, beaucoup plus que mes collègues américains qui annonçaient on aura le vaccin dans 2 ans.
Oui.
C'est effectivement, c'est pas une...
23 ans plus tard,
on cherche toujours un vaccin.
Oui.
Et actuellement, je pense qu'il sera plus facile de faire un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire un vaccin qu'on va ajouter au traitement, plutôt qu'un vaccin préventif.
Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez justement cette situation, dans le fait qu'on n'ait pas de vaccin, qu'on soit dans une sorte d'impasse, et en particulier pour les pays du Sud, là toujours, qui sont les plus touchés?
Oui, enfin, pour les pays du Sud, comme pour tout le monde, il y a la prévention. Il faut bien rappeler que le sida est une maladie transmissible, pas contagieuse, transmissible essentiellement par les rapports sexuels. Donc il y a une attitude de prévention qui est toujours la plus importante, on peut dire. Même si on avait un vaccin, d'ailleurs, il faudrait continuer cette prévention. Alors, pourquoi n'a-t-on pas de vaccin? Ben, il y a des raisons, on peut dire, scientifiques. C'est-à-dire que ce virus est assez particulier, il a une énorme capacité de varier, il se cache très bien dans les cellules, et donc faire un vaccin qui protège contre toutes les souches de virus qui circulent dans le monde, c'est un travail, un effort énorme qui n'a pas porté jusqu'à maintenant des résultats. Et en fait, les premières tentatives de vaccination avec des vaccins assez classiques ont échoué, en ce sens que même la partie, le groupe qui a été vacciné faisait davantage d'infections que le groupe non vacciné.
Oui.
Car aussi, c'est un autre problème, c'est que comment démontrer l'efficacité d'un tel vaccin, il faut comparer avec un groupe témoin qui, lui, n'aura pas reçu et voir le vaccin et voir si ce groupe va être davantage infecté que le groupe vacciné. Et malheureusement, ceci suppose aussi avoir un groupe de population très important, plusieurs milliers de personnes exposées au virus, et ces personnes, on va les trouver maintenant que dans les pays du Sud, dans les pays d'Afrique ou d'Asie. Donc il y a des problèmes éthiques qui se posent également. Donc moi, je préconise actuellement vaccin thérapeutique. C'est une étape qu'on peut franchir plus rapidement, plus facilement.
Donc ça, c'est la priorité.
C'est la priorité. Et si à ce moment-là, on a un vaccin thérapeutique qui marche, peut-être pourra-t-on le transformer en vaccin préventif.
Mais là, on est sur le moyen terme ou sur le long terme à nouveau?
Je ne peux pas donner. Mes collègues, j'ai donné des dates et elles n'ont pas été suivies. Enfin, en 85, j'étais quand même assez prudent, mais je ne donnerai pas de date.
Ouais. En tout cas, les trithérapies, elles, permettent de vivre la plupart du temps sans infection, mais effectivement, ça n'a pas éradiqué pour autant le virus.
Non, elles ne vivent pas. On peut vivre, mais avec l'infection. C'est-à-dire que le virus est toujours là, mais on n'a pas les infections secondaires, les infections opportunistes déclenchées par l'immunodépression.
Ouais. Puisqu'on a maintenant pratiquement, on arrive à une indétectabilité du virus.
On ne détecte plus le virus dans le sang, mais il est ailleurs. Et on sait que dès qu'on arrête le traitement, ce virus qui est ailleurs va redonner et inonder l'organisme.
Alors, vous parlez du virus du sida comme d'un virus échangiste avec les mutations de ce virus. Et ça pose évidemment de gros problèmes sur les multiples variantes du virus du sida.
Oui, c'est un virus qui a choisi la stratégie d'échapper au système immunitaire en changeant totalement, continuellement et presque totalement. Donc, il échange pour ça des morceaux de gènes avec d'autres de ses confrères. Il y a une sorte d'échange perpétuel qui n'est pas seulement lié à des mutations, probablement à ce qu'on appelle des recombinaisons génétiques. Et ceci, d'ailleurs, n'est pas propre uniquement au virus du sida. Il y a d'autres virus comme le virus de la grippe qui varient aussi beaucoup. Et aussi les cellules cancéreuses. Donc, il y a des systèmes communs. Et je pense que le point commun, justement, entre toutes ces organismes, c'est d'utiliser le stress oxydatif. C'est-à-dire que l'action des radicaux libres, des molécules dérivées d'oxygène sur l'ADN fait, ou l'ARN, fait qu'il induit, et ce champ oxydant va induire des mutations perpétuellement. Et donc, il l'induit dans les cellules cancéreuses, pour ça qu'elles deviennent toujours résistantes à la chimiothérapie ou au traitement que l'on fait, mais aussi pour le virus du sida, c'est la même chose.
Est-ce qu'il y a un risque de voir réapparaître ce qu'on appelle des masses critiques, comme ça s'est produit dans les années 80, par exemple, aux États-Unis, avec le sida?
Oui, c'est-à-dire que la nouvelle génération a oublié un petit peu ce qui s'est passé dans les années 80, où tout le monde mourait, notamment les homosexuels, qui avaient beaucoup de partenaires. Et donc, si on revient un peu à ces comportements, on risque effectivement à nouveau de créer une masse critique avec des virus résistants au traitement.
D'où effectivement pire. L'importance toujours de la prévention.
Toujours de la prévention et c'est un virus dont on peut prévenir la transmission. Mmh. C'est pas un virus contagieux qu'on va attraper par la respiration par exemple.
Juliette Malakoff par courriel, elle nous dit ceci puisque vous êtes le spécialiste du virus du sida, je voudrais savoir si l'origine exacte du virus est connue et de quand datent les premiers cas chez les humains. Alors là aussi vous en parlez évidemment dans votre livre parce qu'il y a beaucoup de polémiques d'ailleurs sur la question sur l'origine du sida.
Oui, bien sûr, il y a eu des tas de théorie, je vous dirais mon opinion personnelle, c'est-à-dire que ce virus existait probablement depuis un certain temps, même plusieurs siècles ou même plus, en Afrique. Certains disent qu'il vient des singes peut-être, mais enfin l'homme africain notamment devait exposer à ce virus depuis longtemps, mais il ne craignait pas d'épidémie. Donc quelque chose est arrivé dans notre période moderne. Est-ce que c'est lié à nos propres activités? C'est pas impossible. Est-ce que les vaccinations favorisées, par exemple, les vaccinations sans précaution d'hygiène, ont pu favoriser la dissémination du virus? Est-ce qu'il y a un autre facteur biologique qui a augmenté la virulence et justement le pouvoir de variabilité du virus? C'est aussi une question que je pose, qui viendrait pas forcément d'Afrique. Donc il y a peut-être une contribution de deux autres continents, de l'Amérique par exemple, à l'épidémie actuelle.
Luc Montagnier, vous travaillez donc avec la Fondation Mondiale de Recherche et Prévention Sida. Vous revenez d'ailleurs du Cameroun, hein, vous avez un centre là-bas sur place à Yaoundé. Vous travaillez justement sur l'accès aux soins pour les personnes des pays du Sud, l'accès aux trithérapies en particulier, puisqu'on parle de Sida là en l'occurrence.
Disons, il y a actuellement un progrès important pour l'accès aux trithérapies en Afrique grâce aux initiatives internationales, puis aussi aux gouvernements locaux. Il y a certains pays, dont le Cameroun, qui rendent gratuit le traitement par la trithérapie, ce qui est quand même très important. Est-ce que c'est suffisant? Non, je pense que on peut pas traiter tout le monde par la trithérapie, notamment les personnes qui ont été infectées très récemment, et que là donc il y a la place pour des traitements complémentaires. Il y a aussi une place pour traiter pendant la trithérapie par des extraits de plantes, par exemple des immunostimulants qui peuvent augmenter la résistance immunitaire de la personne. Mais ces centres servent également véritablement des transferts de technologies, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la recherche, ils font de la recherche, et cette recherche doit avoir le même niveau que la recherche faite dans le Nord. Il ne s'agit pas de faire des safaris, de prélever des sérums et faire la recherche dans le Nord. Il s'agit vraiment véritablement, grâce à ces centres de recherche qui sont maintenant bien équipés, de faire de la recherche sur place et d'attirer notamment de faire un retour du brain drain, de la fuite des cerveaux, qui se fait aussi beaucoup à partir de ces pays. Beaucoup de jeunes Camerounais vont par exemple se former en France, aux États-Unis, et n'en reviennent pas parce qu'ils n'ont pas sur place des structures de recherche où ils pourraient travailler. Donc ces centres vont permettre aussi en partie de renverser ce flux et de permettre donc à des jeunes Africains formés à l'extérieur, de revenir dans leur pays et faire de la recherche.
Vous revenez d'ailleurs sur le fiasco français et le succès américain autour des médicaments anti-sida dans votre livre. Vous êtes beaucoup intéressé.
C'est une histoire assez malheureuse, puisque le virus a été trouvé en France. On aurait pu imaginer que les premiers inhibiteurs étaient trouvés en France, mais on n'avait pas les forces de frappe nécessaires.
Ouais. Alors, une autre question sur la vaccination. Il y a beaucoup de mails des auditeurs en ce sens. Séverine de Courbevoie demande s'il faut se faire vacciner contre l'hépatite B. Est-ce qu'il y a un vrai risque de développer une sclérose en plaques?
Alors, c'est une question que je pose dans mon livre. Je n'y réponds pas. Je pense que le vaccin contre l'hépatite B, c'est un vaccin moderne qui a fait ses preuves et qui permet donc de prévenir justement l'occurrence de cancers du foie, qui sont souvent la conséquence d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B. Ceci dit, ce qui est frappant, c'est la corrélation temporelle entre certaines scléroses en plaques et une vaccination contre l'hépatite B. Et j'ai d'ailleurs préconisé par des lettres au ministère de la Santé de faire une recherche à ce sujet, c'est-à-dire d'essayer de détecter par des tests de laboratoire relativement simples, des personnes qui sont à risque de faire non seulement une sclérose en plaques, mais une réaction auto-immunitaire, parce qu'il y a aussi des lupus, des maladies articulaires qui ont été décrits après cette vaccination.
Professeur Montagnier, donc vous êtes arrivé à cette notion de champ oxydant, vous en parlez beaucoup dans votre livre, donc c'est l'addition de ces phénomènes qui créent du stress oxydant. Alors justement, le problème avec les antioxydants, c'est qu'ils sont devenus très à la mode, que tout le monde s'en est emparé, c'est évidemment un marché très lucratif. Alors même Coca-Cola, je ne sais pas si vous avez vu, sort un Coca aux antioxydants ces jours-ci. Alors où se situe la science un peu dans tout cela? Comment est-ce qu'on peut faire le tri?
Alors c'est vrai, c'est un sujet maintenant qui est à la mode, qui a franchi les portes des supermarchés et des fabricants de cosmétiques, etc. C'est un danger parce que se traiter soi-même par ces antioxydants peut conduire au résultat opposé, c'est-à-dire qu'on crée un stress oxydant. C'est une question de dose, d'équilibre en certaines vitamines, vitamine C, vitamine E par exemple. Donc, moi, ce que je préconise dans mon livre, c'est vraiment que ça soit une discipline médicale à part entière, qu'il y ait des tests de laboratoire qui soient standardisés, validés dans des centres de médecine préventive, et que ça donc ça se fait l'objet de prescriptions médicales en fonction des tests, des mesures qui ont été faites dans ces tests, parce que chacun a une histoire différente et peut répondre différemment.
Le thé vert est-il un antioxydant, demande Guillaume Aix-en-Provence.
Certainement, il contient notamment des polyphénols qui sont une famille de très riche en antioxydants. Il y a aussi le vin rouge en petite dose. Enfin, il y a beaucoup de plantes, si vous voulez. Les plantes ont eu affaire au stress oxydant bien avant nous. Donc, ce sont des meilleurs chimistes que nous, probablement. Elles ont fait énormément de produits antioxydants.
Nicole demande à Marseille, est-ce qu'il y a autant d'antioxydants dans un fruit ou un légume cultivé traditionnellement et le même fruit ou légume industriel? Est-ce qu'avec les traitements chimiques, on perd en antioxydants?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, un traitement par les pesticides va diminuer la quantité d'antioxydants de la plante ou du fruit. Première chose. Deuxième chose, la conservation à long terme, à 4 degrés, par exemple, dans les chambres froides, va diminuer la présence de certains antioxydants fragiles, comme la vitamine C. Donc, c'est vrai des produits dits organiques, bio, peuvent contenir davantage d'antioxydants que des produits industriels.
Luc Montagnier, pour terminer très rapidement, vous allez témoigner jeudi dans le cadre du procès des hormones de croissance, avec donc ces 111 enfants décédés suite à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On vous a beaucoup entendu déjà là-dessus les semaines passées, puisque dès 1980, vous aviez écrit une lettre à Fernand Drey de l'Institut Pasteur pour l'avertir des risques de la transmission de la maladie. Donc c'est jeudi, je crois, pour vous, pour ce témoignage.
C'est effectivement jeudi prochain. Ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement on puisse faire quelque chose pour tous les enfants qui restent et qui sont à risque, parce qu'il y a un certain nombre qui ont été injectés, ils ne savent pas s'ils vont faire la maladie ou pas, qu'ils peuvent avoir une très longue période d'incubation. Donc ce que je voudrais, c'est faire de la recherche et que vraiment on lance un programme de recherche en France là-dessus, tout de suite.
Merci beaucoup Luc Montagnier. Les combats de la vie, donc ça sort mercredi en librairie chez Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.
Merci à vous.
À bientôt.
Non, je n'ai pas, non, le profil. Sûr qu'on n'est pas nés tous égaux. Ma vie ne tient pas qu'à un fil. J'ai des mousquetons plein le dos. Je ne ferai jamais le sujet d'une biographie et je le regrette. Je n'ai pas eu mauvaise fortune dans le passé, faut que je vive avec. Sûr que je manque d'intérêt, puisque je ne suis pas orpheline, puisque je n'ai pas été trouvée étant petite dans les épines. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec ma mère. C'est pas de ma faute si je vais bon train. J'ai rien pu y faire. Vrai, mes parents peu téméraires. Ils ont pas de médaille, leur manque pas de bras. Sont pas allés mourir à la guerre. Ça c'est pas de leur faute, y'en avait pas. Mais bon sang, j'ai rien à pleurer. Penses-tu qu'ils auraient fait un effort? Ils n'ont même pas divorcé. Je suis pas rodée contre le mauvais sort. Non, je suis pas née au bon endroit pour faire du courage mon blason. Je peux inventer mais ça compte pas. Ça me fait pas le pied d'une cendrillon. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec mon père. C'est pas de ma faute si je fais bon train. J'ai rien pu y faire. À moi au secours mal aux ailes. Viens montrer comment tu fais pour toutes les emmerdes te reviennent. Dis tu voudrais pas m'en prêter. Moi j'ai jamais été prise en otage. J'ai pas le maquis dans la peau. Et mon bateau n'a jamais fait naufrage. Du coup je sais pas faire les radeaux. Au lieu de tout ça c'est dans les joues. Je me suis plantée hier matin. Si c'est pas triste ça chez nous. La mode n'est vraiment pas un refrain. Mais c'est pas de ma faute si tout va bien. Voyez ça avec la Camarde. Allez
Elle s'appelle Marie Chérier, pas de ma faute à l'instant sur France Inter. Premier épisode de notre feuilleton consacré cette semaine aux coulisses de l'émission scientifique C'est pas sorcier que vous voyez l'après-midi sur France 3 avec Fred et Jamy et puis surtout dans l'ombre toute l'équipe des techniciens, réalisateurs et journalistes scientifiques dont Emmanuel Housset qu'a rencontré Laurence Garcia.
Voilà. Là, je mets un 19, Jamy.
Est-ce que vous notez en plus à chaque fois ?
Je vous donne des notes, bien sûr.
Est-ce que vous avez le temps d'apprendre des choses, au moins, et de revoir votre formation scientifique que vous n'avez peut-être pas ?
Non, non, franchement, non, on regarde autre chose.
Vous regardez quoi ?
Ouais, bah, l'image.
Vous n'écoutez pas, là ?
On essaye d'écouter, mais souvent on n'écoute pas parce qu'on est, sur le coup de l'image, on fait attention, qu'il n'y ait pas de problème, quoi, en fait.
Pourquoi pas ?
Donc du coup, voilà, les problèmes de réchauffement climatique, etc., ça vous passe au-dessus, quoi.
Non, pas du tout, non, on écoute, quand même, on entend le message quand même. On entend le message,
mais bon. Quand tu comprends pas, je lui dis. Hein.
C'est un peu, les gars, c'est que sur les plateaux de C'est pas sorcier, il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose à dire aux journalistes. Tout le monde sait toujours un truc ou rajoute un truc. Non. On va demander à JP tout à l'heure. C'est JP. Ah, JP, c'est...
Ah bah, c'est le grand spécialiste de la glisse, hein, ici.
Non. JP, c'est le spécialiste de tout ce qui est, mécanique, voilà. Si on montre un moteur de mobylette, d'avion, de je ne sais quoi, il va nous vérifier dans les moindres détails.
Si il montre un tas de neige, JP,
il connaît aussi. Ah,
ouais. Vous êtes vraiment une enfant de C'est pas sorcier, non?
En fait, je suis une enfant tardive de C'est pas sorcier, c'est-à-dire que je regardais avant de travailler pour eux. Et maintenant, je suis un produit pur, C'est pas sorcier. C'est-à-dire que j'enquiquine tout le monde avec ce que j'ai appris et les 1000 questions que je me pose sur comment ça marche, comment... C'est terrible, on devient des pipelettes, comme les gamins, comment ça marche, etc. Mais voilà, à 35 ans, on est complètement formaté. D'un côté, c'est chouette parce que c'est une espèce de désir insatiable, etc. Et en même temps, on a toujours un truc à dire sur tout. Donc je crois qu'on est un peu agaçant parfois, quoi.
Vous croyez ?
Ouais.
C'est bien de continuer à se poser des questions. Il y a tellement de gens qui sont encore dans les notions de certitude.
Ouais. Okay. Ça, je pense que c'est, pour moi, c'est le bonheur le plus grand, c'est pas sorcier. C'est que ça m'a donné une fraîcheur, que j'avais peut-être pas avant, quoi.
Allez, moteur. Allez, la lumière.
J'y vais, on voit, s'il te plaît. Merci.
Ça tourne. Attention pour Fred. Top.
Oh, Jamy. Oh, dis-moi, si les températures remontent avec le réchauffement climatique, alors ça veut dire que le niveau du neige aussi va remonter. Oh là, je vais skier avec un parapluie, moi.
Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Eh oui, si l'air se réchauffe...
La question première de C'est pas sorcier, c'est vraiment comment ça marche?
L'idée, c'est que il faut jamais qu'on se comporte comme des spécialistes de la question. C'est-à-dire que même si les journalistes sont scientifiques à la base, ils le sont pas tous, il faut qu'on se pose les questions d'enfants, vraiment, qu'on se mette à la place des gamins. Donc on part vierge de tout savoir. Même le fonctionnement d'une cellule de corps humain, à quoi ressemble une goutte de pluie, où c'est toujours, on va toujours partir de la base pour complexifier après, mais on se pose des questions vraiment...
Et vulgariser, c'est pas forcément simplifier à outrance non plus, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller super loin. Souvent, les scientifiques nous disent, mais pourquoi vous nous posez cette question-là? Les gamins vont jamais comprendre. Ben ouais, mais si on veut vulgariser correctement, nous, on a besoin de maîtriser de A à Z. Donc c'est vrai qu'on a une maîtrise du sujet qui va très loin, qu'après, on va quand même simplifier au maximum, mais simplification ne veut pas dire raser tout et tomber dans le fou. On fait vraiment attention à ça.
Il y a rien de plus compliqué que de faire simple aussi.
Il y a rien de plus compliqué parce que justement ça nous demande une exigence extrême sur chaque mot sans que cette exigence se voit, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça paraisse limpide. Sauf que, enfin, moi, quand je travaille sur le fond de l'explication, je peux rester coincée 2 heures sur une phrase parce que je me rends compte qu'il y a un petit détail que j'ai pas compris et que ça passe pas, ça va pas donner l'impression de couler. Mais c'est en fait parce que j'ai pas exactement compris la fonction de tel ou tel truc dans mon mécanisme, quoi.
La rigueur.
Ah ouais, la rigueur. Ah ouais, non, mais complètement. C'est l'école de la rigueur. Et en même temps, l'école de la désinvolture et de la nonchalance, parce qu'il nous faut un ton léger, voilà. Mais d'ailleurs, quand on écrit les scénarios de C'est pas sorcier, où on est à la fois concentré, épuisé, et en même temps, on rit. Forcément, parce qu'on va essayer de pas tout prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on va essayer de détourner pour créer des situations humoristiques, etc. Et nous, notre humour potache, peut aussi nous faire rire nous-mêmes, finalement. On est les premiers spectateurs de nos histoires, avec nos personnages, etc. Quoi.
Ok, on y retourne, on se remet sur le visio. Oui, il faut que tu pars un peu trop tôt cette fois, Pierre, à la coupure. Attends que le visio s'éteigne pour basculer sur Jamie.
La ligne de oui. L'isotherme, quand elle se déplace, si tu commutes au même moment, on la voit passer.
D'accord, il faut que j'anticipe. Ça
marche. Suite de la découverte des coulisses de C'est pas sorcier avec le feuilleton de La tête au carré signé Laurence Garcia. Je vous rappelle que vous retrouvez l'émission tous les jours du lundi au samedi à 17h30 sur France 3 avec un site internet à votre disposition, c'estpassorcier.com. Ludovic Asselot, Cédric Lalanne était à la technique. La programmation musicale était signée Jean-Michel Montu. Bonne journée à tous. À demain, il est 15h. Les infos, Claire Servageant, bonjour Claire.
Bonjour, les chantiers de l'Atlantique condamnés pour le drame du Queen Mary 2. Le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire tombe à l'instant. Les chantiers de l'Atlantique sont reconnus coupables de l'effondrement de la passerelle qui avait provoqué la mort de 16 personnes en novembre 2003. Le constructeur de la passerelle aussi est condamné. Ils écopent de la même peine tous les deux, 177 500 euros d'amende. Une première victoire pour Jean-Marc Deperroy. La commission de révision des condamnations pénales ordonne un complément d'information dans l'affaire de la Josacine empoisonnée. Cette affaire qui a coûté la vie à la petite Émilie Tanné il y a presque 14 ans près du Havre. La petite fille était morte après avoir pris son médicament contaminé au cyanure. 3 ans plus tard, Jean-Marc Deperroy avait été condamné à 20 ans de prison, condamné pour avoir mis ce cyanure.